Bonjour et bienvenue à Tous aux oiseaux, la balado-diffusion qui vous parle des oiseaux du Québec en français. Gaspard Tanguay-Labrosse au micro, cette balado-diffusion est une production de Québec Oiseaux. C'est à cette période de l'année qu'on célèbre d'ailleurs l'anniversaire de la balado-diffusion et au début de 2023, le balado célèbre ses 3 ans d'existence avec ce 24e épisode. On a commencé en 2020. On est toujours vraiment content de vous offrir ce contenu et de vous permettre de connaître les actualités ornithologiques et les oiseaux du Québec. Alors, c'est 3 années qui ont passé quand même pas mal rapidement. En tout cas, je parle en mon nom personnel. Et je vais en profiter, comme c'est l'anniversaire aussi, pour remercier Nata Huo, qui s'occupe de l'aspect technique derrière la balado et qui fait tout un travail depuis le tout début de ce projet. Alors, on le remercie. Québec Oiseau a tenu au début de l'année son encan en ligne et son événement conférence bénéfice. On voulait remercier tous ceux qui ont participé à la conférence, ceux qui ont fait des dons, qui ont fourni des prix à soumettre à l'encan et qui ont misé sur les prix affichés. De mon côté, j'ai le grand bonheur d'avoir eu la mise la plus élevée sur une journée guidée par la Société de loisirs ornithologiques de l'Estrie. Et c'est donc dans la région de Sherbrooke que j'irai passer un peu de temps ce printemps pour profiter de mon prix. Peut-être que je pourrais vous faire un compte rendu. J'ai vraiment hâte, en tout cas, de rencontrer les gens de la SLOE et de profiter de mon prix. Cette année, les profits serviront à alimenter la zone jeunesse Québec Oiseau qui cherche à faire connaître l'ornithologie aux jeunes, vraiment un beau projet qui permettra de renouveler notre belle communauté, continuer à susciter des passions chez la relève. Puis quand on les recrute jeunes, on s'assure aussi que des ornithologues de la relève vont être là quand viendra le temps de conserver les oiseaux et les protéger. L'hiver tire à sa fin, courage, j'ai déjà vu sur des groupes de discussion que certains dans le sud du Québec ont vu leur premier carouge à épaulettes, le meilleur signe du printemps. C'est pas encore fait pour moi, mais ça ne saurait tarder. Souvent le matin, lorsque c'est le printemps qui arrive, j'ai la chance, si on veut dire que c'est une chance, de voir les goélands à bec cerclé qui viennent ramasser les restants des snacks des joueurs de basketball et de soccer qui fréquentent le parc pas loin de chez moi. Je vous dirais que j'ai vraiment, vraiment hâte de les voir arriver. Alors, heureusement, on a un épisode qui vous fera voyager à travers les saisons aujourd'hui et aussi à travers l'espace parce qu'on s'en va en plein été au Nouveau-Brunswick. C'est un épisode qui est un petit peu plus long aujourd'hui, mais je pense que ça vaut vraiment la peine parce que c'est un épisode pour lequel la balado-diffusion est le médium le plus particulièrement indiqué où on va vous faire jouer des enregistrements sonores et aiguiser vos oreilles. Vous aurez à reconnaître des chants, donc on a vraiment hâte de vous présenter ça. Camille Rondeau est étudiante à la maîtrise. Elle étudie les chants des bruants des prés à l'aide de l'intelligence artificielle et on commence tout juste à voir les possibilités de l'intelligence artificielle pour l'étude des oiseaux. Alors qu'il ne se passe pas une journée en ce moment dans les médias sans qu'on entende parler de l'IA, on va pouvoir se plonger dans tout ce qu'elle va éventuellement permettre de bien pour la conservation et l'étude de notre avifaune. Bonne écoute! Alors, je suis à Montréal avec Camille Rondeau, qui est étudiante à la maîtrise à l'Université de Montréal et à l'Université de Windsor, et qui fait sa maîtrise, entre autres, sur le bruant des prés. D'abord, merci beaucoup, Camille, d'être avec nous aujourd'hui.
Merci de m'accueillir.
Écoute, et puis, premièrement, on va commencer par te demander de te présenter de façon sommaire, peut-être juste en une phrase, nous dire un peu sur quoi tu travailles dans le cadre de ta maîtrise, puis après, on va plonger un petit peu plus en profondeur, discuter de différents sujets qui y sont liés.
Oui, donc moi, je m'intéresse au chant du bruant des prés et j'essaie d'entraîner un réseau neuronal, donc une intelligence artificielle, à reconnaître les individus bruants des prés d'après leur chant.
OK, donc là, peut-être commencer par nous dire, bon, le bruant des prés, de quoi il a l'air, quel genre d'oiseau est-ce que c'est, de quoi son chant a l'air aussi?
Oui, donc le bruant des prés, c'est un petit bruant brun qui n'est pas très spectaculaire visuellement. Il a quand même son joli sourcil jaune, mais c'est un bruant qui est assez commun partout en Amérique du Nord. On en trouve en Alaska aussi bien qu'au Québec, et puis ça va quand même assez loin au sud des États-Unis. Donc c'est vraiment un oiseau qui est très répandu, qui vit, comme son nom l'indique, dans les prés. Il vit dans les herbes hautes, dans les petits buissons, plutôt en milieu ouvert. Et c'est un oiseau qui a comme particularité qu'il apprend un seul chant, et qui va chanter ça toute sa vie. Et le chant de chaque bruant est un peu différent de celui de tous ses congénères. Donc, c'est vraiment un oiseau super intéressant à étudier pour la reconnaissance individuelle, parce qu'ils ont chacun une espèce de signature sonore.
OK, donc, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, l'oiseau, lorsqu'il va apprendre son chant, sa phrase, bon, le chant du bruant des prés, c'est un chant qui est comme relativement simple, qui n'est pas extrêmement long, qui ne dure pas 25 secondes.
C'est un chant de 3 secondes, en effet.
3 secondes, alors, bon, évidemment, tu as la valeur exacte. Donc, donc, un chant de 3 secondes. Et puis, donc, on prend un chant de 3 secondes et le bruant va chanter toute sa vie le même chant de 3 secondes.
Exactement, oui. Il y a très peu de variations. Il y a à peu près 2% des oiseaux qui vont chanter, qui vont parfois alterner entre deux types de chants. Mais en général, c'est vraiment comme si tu avais appris ton nom quand tu as grandi, tu as appris à dire Gaspard et tu passes toute ta vie à dire Gaspard.
Ah oui, mon Dieu, OK, ça serait un petit peu dommage. En tout cas, pour le podcast, ça serait beaucoup moins intéressant. Si je faisais juste répéter Gaspard pendant tout le podcast, je pense que les auditeurs seraient moins enthousiastes. Et puis, est-ce que c'est un oiseau dont le chant est beaucoup étudié pour ces raisons-là, ou est-ce qu'il y a beaucoup de recherches qui se font? Par exemple, au niveau des dialectes, est-ce qu'il y a une différence parce qu'on parle de grandes étendues, l'Alaska, le Québec, ou est-ce que c'est assez récent qu'on a commencé à s'intéresser au chant de cet oiseau-là?
Bien, la population que j'étudie, c'est sur l'île Kent, qui est au Nouveau-Brunswick, donc c'est dans la baie de Fundy, juste un petit peu au large de l'île Grand Manan qu'on connaît.
OK, parfois. Comme à l'extrême sud-ouest du Nouveau-Brunswick. Là,
eh bien, le point le plus au sud du Nouveau-Brunswick se trouve sur l'île Kent. Donc, oui, effectivement, c'est à peu près sur la... Si on continuait la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Maine, ben on toucherait à l'île Kent.
Ouais. Ah, OK, d'accord. Puis c'est vraiment... je sais que c'est un lieu, l'île Grand Manan, c'est très populaire justement en ornithologie au cours de la migration.
Oui, c'est magnifique. Donc, l'île Kent, c'est une station de recherche qui appartient au Bowdoin College, qui vient du Maine. Et donc, il y a seulement des scientifiques et des étudiants qui peuvent aller sur cette île-là. Donc, peut-être que ce serait touristique si c'était accessible.
Ah oui,
mais
okay.
En fait, pour... demander à un pêcheur de nous amener sur l'île. Il n'y a pas de liaison. Non, il n'y a pas de navette. Il faut vraiment venir dans un bateau de pêcheur pour venir s'installer sur l'île qui fait à peu près 3 km de long par 500 mètres de large. Et moi, j'ai passé tout le mois de mai avec deux collègues sur l'île, vraiment juste à étudier les oiseaux. C'était fantastique.
Ah oui, ça doit être effectivement assez extraordinaire. Et puis donc, comment ça se passe, disons, au moins la portion analyse de terrain. Donc là, vous débarquez sur l'île. Qu'est-ce que vous faites exactement? Qu'est-ce que tu as fait pour ta maîtrise, pour récolter des données auprès des bruants des prés?
Donc, la première étape, c'est de baguer les oiseaux. Parce qu'on arrive à la toute fin du mois d'avril, là, il y a les mâles qui sont déjà arrivés. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on sort les jumelles puis on veut savoir lesquels sont des nouveaux, lesquels ne sont pas bagués. Quand on en voit un qui n'est pas bagué, on place des filets japonais. Je ne sais pas si tes auditeurs sont...
Ah, c'est des filets pour capturer les oiseaux. J'imagine si vous avez déjà vu du bagage, c'est les espèces de grands filets qu'on peut déplier, replier pour essayer de capturer les oiseaux là, quand on fait du bagage. Oui.
Exactement, qui sont censés donc être invisibles, puis les oiseaux ne les voient pas, ils volent dedans. Ça les blesse pas, on les attrape tout de suite, on essaie de vraiment minimiser la manipulation. Puis nous, ce qu'on fait, non seulement on leur met une bague en argent avec les numéros qui font que c'est une combinaison unique, donc cet oiseau-là pourra être reconnu peu importe où il vole en Amérique du Nord, mais aussi on leur met 3 bagues de couleurs. Donc ils ont sur leurs jambes une combinaison de 3 bagues, donc par exemple, on peut en mettre 2 sur la jambe gauche, une sur la jambe droite. Et puis ça fait que quand on va les regarder avec les jumelles, on va reconnaître cette combinaison-là. Puis on leur donne des lettres. Par exemple, si on a un oiseau qui a une bague verte, une bague orange puis une bague bleu foncé, ça va être « green, orange, navy ». G-O-N. Donc, cet oiseau-là, pour cette saison et pour toute sa vie, en fait, il va s'appeler « gone ».
OK.
On a aussi « Roy », qui est « red, orange, yellow ». On a « Ollie », qui est « orange, light blue, yellow ».
Ah oui, OK. Donc, il y a toutes sortes de combinaisons comme ça de bagues de couleurs. Je sais qu'il y a plusieurs auditeurs, en tout cas sur Facebook, je vois régulièrement passer, ben, régulièrement des gens qui prennent des photos, puis qui se demandent comment ça se fait, pourquoi cet oiseau-là a 3 ou 4 bagues, puis les bagues de couleurs, etc. Fait qu'en général, c'est pour des études comme ça, où on a besoin de reconnaître chaque individu pour comprendre. Donc là, une fois qu'ils sont bagués, qu'est-ce que vous faites? Combien vous en avez bagué, par exemple, au début de l'été?
Des molles sur le territoire qu'on étudie, on en bague chaque année entre 35 et 50. Je pense que cette année, on en a quelque chose comme 45, okay. Ce qui est très bon. Après, c'est sûr que les femelles vont être baguées aussi, les jeunes, mais ça, c'est pour des études comportementales qui sont pas rentre de mon ressort puis qui se passe un petit peu plus tard dans l'été. Moi, je me soucie vraiment des mâles. Là. Je connais bien mes mâles puis je connais leurs petites caractéristiques. Donc, le fait qu'ils soient bagués, ça fait qu'on peut observer leur comportement. Donc, une fois que nos oiseaux sont bagués, nous, on sort sur le terrain avec les jumelles et puis on a fait une espèce de grille sur l'île qui nous permet de cartographier, de dire, par exemple, mon mâle G-O-N, je sais qu'il se trouvait dans le secteur P25, par exemple. Donc, okay. Je vais noter sur la carte, OK, aujourd'hui, j'ai observé G-O-N qui se déplaçait dans P25 et qui avait telle sorte de comportement. Il chantait, il cherchait de la nourriture. Donc, on se crée une espèce de carte comme ça pour savoir exactement où se trouvent les oiseaux puis où vont se cristalliser leur territoire, si on veut.
Donc, une fois que c'est fait, une fois que vous connaissez vos oiseaux, là, vous savez sur quel territoire ils se situent. Éventuellement, les femelles vont arriver. Ils vont peut-être commencer la nidification. Puis là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous essayez de comprendre?
Mais moi qui m'intéresse particulièrement aux champs, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à faire la bibliothèque des champs. Donc là, je sors avec un enregistreur qui est assez focal, donc directionnel. Un enregistreur avec un micro qui va vraiment me permettre de pointer un oiseau puis d'isoler tout le bruit de fond qu'il va avoir autour, avec une parabole en plastique aussi. On a la chance de travailler en milieu ouvert, donc on peut vraiment sortir le beau gros matériel qui serait compliqué un peu à déplacer dans les branches si on était en milieu forestier.
Ah oui, OK. Oui, parce que les bruants sont dans des milieux qui sont plutôt découverts. Oui,
on parle de la hauteur d'un buisson de bleuet, donc à peu près à hauteur des genoux, ça se fait très, très bien de marcher là-dedans. Donc, moi, je vais viser un oiseau, puis je vais dire à mon enregistrement, par exemple, j'observe vert sur la jambe gauche, orange et bleu sur la jambe droite, je suis en présence de G-O-N. Et là, j'attends qu'il chante. Et une fois qu'il a chanté, bien, je sais qu'il vient de faire sa signature caractéristique. Donc, je fais ça pour tous les oiseaux que j'observe, tous les mâles, parce que dans cette espèce-là, c'est seulement les mâles qui chantent. Les femelles vont faire des cris de contact, mais ce ne sera pas quelque chose qui sera aussi facile que les mâles à faire la distinction individuelle. Donc, moi, je me concentre vraiment sur les mâles.
OK. Puis donc, à partir du moment, bon là, parce que là, on a compris, chaque mâle, c'est quelque chose qui était déjà connu. Chacun de ces mâles-là a une signature vocale caractéristique. Là, vous les avez bagués, vous êtes capable de les reconnaître, vous les enregistrez. Donc, qu'est-ce que c'est le but exactement? Donc, à partir de ce moment-là, parce que est-ce que c'est de reprouver à nouveau que chacun des mâles a son chant, en prouvant qu'à chaque fois qu'il chante, c'est toujours le même chant que vous enregistrez? Ou est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques qui vont vous intéresser dans les chants de ces oiseaux-là? Qu'est-ce que vous allez chercher?
Bien, ça, c'est déjà bien connu. Cette population-là est étudiée depuis les années 70. Okay. Il y a certains projets qui se font un petit peu partout en Amérique du Nord, mais cette population-là est particulièrement bien connue en Amérique du Nord. C'est une population qui a été très, très bien étudiée par de vraiment excellents chercheurs. Donc, on sait déjà très bien, ça a été prouvé, je pense, un article de 2008 qui a vraiment prouvé que on a un oiseau pour un chant et un chant pour un oiseau. Il y a d'autres chercheurs qui font des études sur l'évolution culturelle, qui est très intéressant, qui font des études sur les microdialectes, par exemple, pour faire la différence entre certains types de chants, comme si certains oiseaux, ils ont beau être tous différents, mais on peut comme les grouper en micro-dialecte ou en genre d'accents locaux, ce qui fait que les oiseaux du nord de l'île chantent quelque chose d'un petit peu différent des oiseaux du sud, et puis on a un petit accent aussi vers l'est.
Fait que même sur une petite, parce que je ne sais pas si grand comment l'île de Kent, mais dans ma tête, j'imagine quelque chose de pas extrêmement grand. Donc, même à si petite échelle, on voit un impact du nord puis du sud.
Oui, parce que les oiseaux vont souvent, les mâles vont revenir nidifier relativement proche à peut-être une centaine de mètres en général. En moyenne, je pense qu'en moyenne, ils viennent nidifier à environ 180 mètres de là où ils sont nés, du nid où ils sont nés. Ça, c'est quelque chose qu'on sait parce qu'ils sont étudiés depuis
Il faut préciser longtemps. En plus qu'on parle d'oiseaux qui sont migrateurs, là, donc qui ne passent pas l'hiver à cet endroit-là. Donc, ils reviennent malgré le fait qu'ils sont descendus jusque dans le sud des États-Unis, d'habitude.
Oui, peut-être maintenant en Amérique centrale.
Ah oui.
Et donc, ils reviennent et puis ils sont philopatriques. Ils aiment bien
le terme savant pour dire...
Pour dire qu'ils aiment leur maison.
Ils aiment leur maison, ils reviennent au même endroit. OK.
Oui, exactement.
Donc, qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez la bibliothèque, justement, avec les voix des différents individus associés à leur nom, associés à leur...
Donc moi, mon but, c'est pas tant de découvrir quelque chose de nouveau sur le bruant des prés, c'est vraiment de créer un outil qui va aider ceux qui vont passer après moi pour étudier les bruants de l'île Kent. Donc moi, ce que je veux faire, c'est créer un réseau neuronal, donc une intelligence artificielle qui va être capable de reconnaître ces signatures sonores-là de chacun des individus à partir d'enregistrements de longue durée. Parce que ce que je n'ai pas encore dit, c'est que ce qui fait partie de notre travail de terrain, c'est que non seulement on est là avec nos jumelles et nos enregistreurs focaux pour pointer sur les oiseaux qui nous intéressent, mais on a aussi des enregistreurs automatiques qui sont plantés dans le champ à tous les 50 mètres. On en a une trentaine.
Okay.
Et puis qui enregistrent en continu, c'est-à-dire qu'ils démarrent à 4 heures le matin, ils arrêtent à 10 heures le soir, et ce, tout l'été. Donc, moi, juste pendant le mois de mai, j'ai ramassé 15 000 heures d'enregistrement de bruant des prés. Ça, il y a d'autres chercheurs dans la même équipe qui vont les utiliser pour étudier, par exemple, l'environnement sonore des jeunes qui naissent dans les nids. Il y a toutes sortes de projets qui vont être faits autour de ça. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est de me dire, si on est capable d'automatiser la reconnaissance des chants des bruants des prés, ce qu'on va pouvoir faire, c'est passer tous ces enregistrements-là, plutôt que de demander à des stagiaires de s'asseoir pendant 15 000 heures
ah oui.
et d'écouter tout ça, d'annoter tout ça. Si on a un programme qui est capable de les écouter à notre place et de nous sortir, par exemple, une liste en nous disant, notre ami Gone, par exemple, il a chanté à tel moment, de nous sortir une énorme liste de chaque fois où Gone a chanté, par exemple, de chaque micro où il a été entendu, ou même de travailler par triangulation pour nous dire exactement où est-ce qu'il se trouvait sur le terrain. Mais là, on aurait une base de données absolument fantastique pour faire le suivi de son comportement vocal, de ses déplacements. On pourra même le reconnaître quand est-ce qu'il est arrivé sur l'île, quand est-ce qu'il a arrêté de chanter dans la saison, et d'avoir ces données-là sur tous les mâles de notre système d'études. Ça serait vraiment fantastique. Donc moi, je pars de ce rêve-là, d'avoir quelque chose... un programme qui automatise la reconnaissance des individus.
Ah oui, OK. Parce que en plus, en ce moment, bon, là, je sais que tout le monde, les auditeurs, quelques d'entre vous, avaient la toute nouvelle version de Merlin sur vos téléphones qui permet d'identifier les oiseaux. Il y a une espèce d'intelligence artificielle qui nous donne des indications. Donc, on sait déjà que ça commence. Là, ça fait peut-être 2 ans là, que c'est vraiment ça a explosé la quantité d'enregistrement, la capacité de reconnaître, de détecter des oiseaux, de les identifier. Puis là, donc là, ce serait vraiment de l'appliquer carrément au niveau de l'individu.
Exactement,
finalement.
Oui. Donc, vous connaissez certainement BirdNet qui a été...
Oui.
Un algorithme, oui. Qui est quand même très fort. Là, je regardais ce matin, la dernière version est capable de reconnaître 3327 espèces.
Oh.
Donc ça, c'est assez fort.
C'est plus que ce dont on a besoin, en tout cas, ici dans le nord-est du Canada.
Oui, en effet, mais c'est pour montrer que ça a quand même un énorme potentiel et c'est utilisé dans beaucoup de projets scientifiques. Il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés par la reconnaissance d'espèces. Donc moi, je pars de cet algorithme-là de BirdNet qui est disponible en ligne pour les chercheurs. Je pars de cet algorithme-là et je vais le réentraîner avec mes propres données. Donc, la façon dont ça fonctionne, un algorithme d'intelligence artificielle, ben, c'est que ça apprend par lui-même, n'est-ce pas? Ça apprend à sortir, à reconnaître les caractéristiques de quelque chose qui lui est montré pour être capable ensuite de le reconnaître par lui-même. Donc, moi, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est que oui, je passe à travers les enregistrements, mais plutôt que d'avoir à tout faire à la main, disons, je me donne un objectif de trouver le 2000 chants pour chaque oiseau.
Wow.
Donc, si on part du principe, mon objectif, c'est d'annoter celui de 35 oiseaux, parce que j'ai dit qu'on en avait 45 qui étaient connus, mais il y en a qui ont fait leur nid juste un petit peu trop loin des micros pour qu'on ait une bonne...
Donc, vous n'avez pas assez de... La quantité de données finalement récoltées par les micros par rapport à leur emplacement n'est pas suffisante pour qu'on puisse...
C'est ça. Il y en a pour lesquels ce n'est pas optimal. Donc, j'en ai vraiment 35 avec lesquels je suis capable de travailler. Donc, pour ces 35-là, j'essaie d'annoter 2000 chants, ce qui veut dire qu'il m'en faut 70 000. La bonne nouvelle, c'est que je suis rendue à 55 000 aujourd'hui.
Donc là, ça, c'est à quelle vitesse ça avance? Parce que ça a l'air énorme, là, spontanément, lorsqu'on entend ça, on se dit ça se peut pas. 70 000 chants, c'est beaucoup.
C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. La bonne nouvelle aussi, c'est que je fais pas ça seulement à l'oreille, je regarde un spectrogramme. Donc un spectrogramme, si j'essaie de décrire ça à la radio, là, je peux pas vous le montrer, mais c'est un graphique qui montre sur l'axe des X, on a le temps qui se déroule. Sur l'axe des Y, on a la fréquence. Donc, ça fait une espèce d'image de tous les sons qu'on entend. Par exemple, je pourrais regarder sur cette image-là puis reconnaître, ah, ça, c'est pas un bruant des prises, c'est un goéland. Ça, c'est une vague. Ça, c'est un coup de vent. Donc, je suis capable d'éliminer tout ça. Et donc, je suis capable de reconnaître les individus que j'étudie vraiment visuellement parce que la bibliothèque des chants, je l'ai fait visuellement. Là, je vais te le montrer.
J'essaie de vous décrire de quoi ça a l'air.
Donc, je te montre la bibliothèque des chants et des spectrogrammes ici. Donc, ici, tu vois que j'ai mis le nom de l'oiseau. Dans ce cas-là, il était black, green, yellow. Donc, on parle de BGY, qu'on appelle, son petit nom, c'est Boggy. Donc, il est écrit ici qu'il vivait dans l'endroit de la grille N24. Et là, on a le spectrogramme.
Évidemment, vous n'avez pas l'image, mais on voit quand même une différence. En tout cas, c'est assez typé. Parce qu'en fait, le bruant des prés, c'est quand même un oiseau. Bon, on a dit que son chant est assez court, mais qui a quand même des sections assez faciles à identifier. Là, des trilles, puis des accélérations, des ralentis. Puis en général, ça finit par une espèce de buzz un peu. Ça sonne comme un insecte un petit peu. Là,
oui,
puis c'est un chant qui est assez discret. Ça ne chante pas fort, fort, mais... Oui, on voit un peu les caractéristiques visuelles.
Donc, tout ça, on appelle ça des syllabes. Et puis moi, je décris ça comme si c'était des blocs Lego, que chaque oiseau dispose à peu près des mêmes, disons, 7-8 blocs Lego, mais ils agencent tous d'une façon un petit peu différente.
Okay.
Donc, on se concentre surtout sur la section centrale ici. Donc, on voit que celui-ci a utilisé deux fois ce bloc-là qu'on appelle un « tch ». Donc, ça sonne comme un « tch ». Avant de passer à la section que tu décrivais où il fait bzzz.
Ah.
Donc, celui-ci a deux fois ce tch-là. Je t'en montre un autre ici où lui, il fait cinq fois avant de passer au buzz.
Et donc là, il va toujours faire cinq fois. Il ne fait jamais quatre fois, jamais deux fois, jamais trois fois, ou enfin, presque jamais.
Presque jamais, oui. En général, ils sont assez constants dans ce qu'ils font. Donc là, il y a toutes sortes d'exemples de ça. Là, celui-ci, par exemple, il fait deux « tch » et ensuite, il fait une note comme un sifflement après. Ça passe très, très vite, mais quand on est capable de s'arrêter puis de regarder les images comme ça, je le pointe et puis c'est assez évident.
Ouais. Oui, là, donc là, visuellement, effectivement, on voit les marques, la longueur, etc. C'est vraiment très évident. Mais c'est sûr qu'à l'oreille, c'est beaucoup plus...
À l'oreille, ça va très vite. On pourra en entendre des exemples.
Oui, bien justement, je pense que ce serait un bon moment peut-être pour faire écouter aux auditeurs quelques exemples de différents individus ou peut-être aussi de comment ça sonne lorsque vous avez un enregistrement complet ou quelque chose comme ça sur lequel vous devez travailler.
Oui, donc je vais vous faire entendre cinq oiseaux qui sont particulièrement contrastés.
OK, bon, faisons ça.
Donc, attends, je vais commencer par t'en faire entendre un vraiment classique.
OK.
Là, je t'en fais un avec qui est vraiment semblable, mais il va répéter plusieurs fois la syllabe centrale. Celui-ci, il va avoir une fois le « tchou » suivi d'une note. Il y a vraiment une note qui est particulièrement sifflante. Là. Celui-ci, c'est son buzz qui est vraiment bizarre.
Ah oui.
Plutôt qu'un buzz, il y a quelque chose de super strident.
Ah.
Puis celui-ci, c'est vraiment le plus bizarre. Il n'y a pas de buzz. Il passe tout de suite. Genre, il oublie de faire le buzz, puis il y a un treillis final, comme il y en a que...
J'espère, en tout cas, que les gens qui habitent, qui ont des bruants des prés pas loin de chez eux, là, je sais si vous habitez dans le bas du fleuve, tout ce qui est sur le bord de l'eau, disons, dans l'estuaire du Saint-Laurent, la côte nord, le bas du fleuve, il y a beaucoup de bruants des prés qui nichent même à côté des maisons. Là. C'est un oiseau qui est quand même assez commun, plus commun dans l'est du Québec. Si jamais vous habitez aussi en milieu plus agricole, où vous avez des très, très grands champs, ça prend des champs assez vastes, d'aller les reconnaître. Moi, je sais que j'en ai qui nichent juste à côté de chez moi, dans le parc Frédéric Bach à Montréal. Donc, c'est un oiseau qu'on peut retrouver quand même assez facilement autour de vous, même si je sais que dans le milieu agricole, il y a un petit peu diminué, les populations ont descendu pas mal. Mais donc, d'aller essayer d'exercer votre oreille à reconnaître les individus, en tout cas, là, je trouve que ça me stimule beaucoup à essayer de reconnaître les miens.
C'est un peu dangereux pour moi quand je conduis sur l'autoroute. Parfois, avec la fenêtre ouverte, j'en entends un, puis ça me déconcentre.
Ah, il ressemble à celui-là.
Exactement. Ça m'arrive.
Et puis, est-ce qu'il y a des défis particuliers associés au fait de travailler avec l'intelligence artificielle? Je sais que... En ce moment, bon, justement, on parlait de Merlin. On sait que là, il y a une espèce d'explosion de l'intelligence artificielle pour reconnaître les chants d'oiseaux. Or, de façon générale, Merlin est très bon pour reconnaître les oiseaux que les humains sont déjà très bons pour reconnaître. Mais Merlin a quand même de la difficulté à faire la différence entre des oiseaux qui sont justement déjà difficiles pour les humains à identifier. Il y a de la difficulté à départager un oiseau qui imite d'autres oiseaux, par exemple un étourneau qui imite un pluvier qu'il dire d'un vrai pluvier qu'il dire, puis des choses comme ça. Là. Donc, c'est quoi les défis lorsqu'on travaille avec ce type d'outils-là?
Bien, le défi, c'est qu'un algorithme d'intelligence artificielle est seulement aussi bon que les données avec lesquelles il a été entraîné. Donc là, moi, je ressens la pression quand même assez forte parce que quand je fais mes annotations, je t'ai expliqué que je le faisais visuellement. Donc, je regarde 40 secondes à la fois et je dessine des boîtes autour des champs que je reconnais. Mais j'ai l'impression que si moi, je me trompe, ça veut dire que mon algorithme va fort probablement se tromper aussi.
Oui, puis c'est sûr que, bon, peu importe à quel point ça nous tient à cœur, projet de maîtrise, à quel point c'est important lorsqu'on a 70 000 oiseaux identifiés, il y a toujours des matins où on s'est levé du mauvais pied, puis peut arriver que, oups, on aille un petit peu trop vite par-dessus, j'imagine.
Mais le grand avantage que j'ai, c'est que j'ai énormément de données, donc je suis capable de, par exemple, si j'ai un champ sur lequel j'ai un doute, je suis capable de tout simplement le sauter parce que j'ai pas à tout annoter. Moi, ce que je fais, c'est que je crée des exemples, comme si je faisais des petites photos à montrer, comme si je montrais 2000 photos du champ. Donc, c'est pas grave si j'en saute quelques-uns ou j'ai un doute. Parce que j'ai qu'à aller le chercher ailleurs.
Oui,
puis aussi,
c'est ça.
Je vous rassure, là, je fais pas 70 000 annotations en une journée. Là. On le fait petit peu par petit peu avec tous les travaux et tâches qui font partie d'une maîtrise. C'est beaucoup de lecture, d'écriture, de demander des bourses, beaucoup d'organisation. Je fais pratiquement jamais plus que 2 heures d'annotation dans une journée. Et même, je trouve ça tellement le fun, puis c'est tellement la partie qui me passionne que je me garde ça parfois comme bonbon, puis j'ai hâte de le faire. Donc, assez bien. Puis après, on est capable aussi de repasser après pour vérifier avant d'entraîner un algorithme avec quelque chose d'erroné, évidemment. Là. Puis j'ai des collègues aussi qui vont pouvoir repasser derrière moi si on veut vraiment s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur.
Ça risque d'être intéressant. Puis c'est surtout d'imaginer en plus après la quantité de données intéressantes que ça va générer après avoir réussi à entraîner l'algorithme. J'aurais peut-être une dernière question, en tout cas un dernier sujet que je voulais aborder, parce que bon, on n'a pas fait la divulgation au début de l'entrevue, mais en fait, Camille et moi, on se connaît de la faculté de musique où on a étudié en même temps. Alors moi, je ne sais même pas si j'en ai déjà parlé au podcast, mais dans la vie, je suis musicien professionnel. Camille, tu as étudié en musicologie, toi aussi, tu as fait beaucoup, beaucoup de musique. Évidemment, c'est certain, je te pose la question, mais il n'y a pas vraiment de secret. J'imagine que ça a dû te guider naturellement vers les chants d'oiseaux.
Exactement, oui.
Donc, pour faire ta maîtrise en biologie. Maintenant, ma question, c'est un peu, parce que c'est une question qu'on me pose aussi souvent. Est-ce que tu as l'impression que ça t'aide? De quelle façon est-ce que ça a une influence maintenant sur ton travail comme biologiste, le fait d'avoir fait de la musique, de fait d'avoir étudié évidemment beaucoup la musique? Je sais que tu as étudié en musicologie, donc en plus tu as déjà eu une démarche scientifique très sérieuse sur la musique. Donc, de quelle façon est-ce que ça a une influence, autrement qu'évidemment simplement susciter de l'intérêt chez toi pour les chants, donc pour l'aspect sonore de la vie des oiseaux?
Bien, tout à fait. Ça a commencé par une attention particulière que j'avais à ça. Mais je pense que le fait que j'ai passé plusieurs années de ma vie à mettre beaucoup d'attention et mettre beaucoup, intellectualiser ce que j'entends. Parce que pour beaucoup de gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir une formation musicale comme toi et moi, parfois ce qu'on entend, c'est abstrait, c'est difficile à décrire. Est-ce que c'est un crescendo, décrescendo? Est-ce que ça accélère? Est-ce que ça monte? Beaucoup de gens me disent « Ah oui, ce chant-là, ça augmente. » Mais qu'est-ce qui augmente? Est-ce que c'est la vitesse? Est-ce que c'est l'intensité? Donc, le fait d'être capable simplement de voir la partition dans ma tête, si on veut, de ralentir un chant que j'entends ou de le conceptualiser. Par exemple, le chant des bruants est très, très, très rapide. Et puis là, on l'entendait tout à l'heure. ça devient facilement une espèce de un simple grincement, mais d'être capable de le rejouer dans ma tête plus lentement, ça, je pense que c'est une compétence que j'ai acquise par de longues heures passées sur les bancs de la faculté de musique en formation auditive, à faire de l'harmonie, de détecter aussi les contrepoints, parce qu'avoir étudié beaucoup le contrepoint chez Bach.
Contrepoint, on parle, bon, parce que là, on est dans un podcast de, évidemment, on se parle entre musiciens, mais donc le contrepoint, on parle de la façon dont plusieurs voix sont écrites les unes par rapport aux autres, donc d'étudier, c'est comme une façon de faire chanter deux voix en même temps pour que le tout soit harmonieux, mais que chacune d'entre elles ait... un certain intérêt. Je ne sais pas si tu es d'accord avec
ma définition
rapidement comme ça.
Oui, c'est de superposer différentes voix qui ont leur propre mélodie indépendante. Mais je vais vous en faire entendre un contrepoint qu'on entend sur Lil Kent. Donc, c'est...
Ah oui, ben allons-y justement, écoutons. Donc, écoutons ça justement, puisqu'on parle de contrepoint. En tout cas, moi ça là, on fait l'entrevue, c'est le mois de novembre, il fait pas super beau, puis j'avoue que là, ça me donne vraiment le goût d'y être. Je dis, oh wow, là, la colonie de goélands argentés, etc., là, les chants des oiseaux comme ça au printemps. Là. En tout cas, j'espère que vous, ça vous fait voyager un petit peu.
Ah oui, tout à fait. Ça me rappelle les odeurs sur l'île, là, la marée basse dans la baie de Fundy, les algues pourries. Ah, puis on a les goélands argentés qui sentent particulièrement féroces, ainsi que les biologistes qui n'ont pas pris de douche depuis un mois.
Ah oui, ça c'est la partie qui me donne moins...
mais oui.
J'y tiens pas nécessairement. J'aimerais bien y aller, mais les biologistes qui n'ont pas pris leur douche, ça me tente moins. Mais,
puis mais là, oui, j'en ris, mais c'est un endroit fantastique.
Oui, c'est ça. Donc, tu disais qu'il y a sept... donc, là-dessus, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il y avait sept bruants des prés différents qui chantaient.
Oui, avec, on entend évidemment les goélands chantés en arrière et puis des hirondelles bicolores par-dessus. Puis parfois, on a aussi un bruant chanteur qui s'ajoute à ça.
Ah, oui.
Oui, donc c'est vraiment de venir distinguer
les différents compliqué.
Qui passent et de porter mon attention à une voix, puis à l'autre, puis à l'autre.
Ah oui, ok, donc là, c'est vraiment là où la musique est un bon outil. Puis donc là, chers auditeurs, si vous voulez, vous pouvez faire revenir en arrière puis essayer d'identifier les sept bruants des prés différents qui étaient dans l'extrait. Oui, c'est pas vraiment évident. Là, tu as dit que tu avais besoin de 2000 enregistrements par oiseau. Puis donc, je me demandais, pourquoi 2000? L'algorithme ne serait pas capable de le faire avec, disons, 25 enregistrements? Ça me semble beaucoup.
Oui, 2000, c'est beaucoup, effectivement. Ça va faire partie de mes recherches de comparer un algorithme qui est entraîné avec 2000 extraits par oiseau, 1000 extraits par oiseau, 500 extraits par oiseau, peut-être 250 si on est chanceux. Donc, de comparer tout ça pour que dans le futur, quand il y a des nouveaux oiseaux qui vont arriver sur l'île, qu'on va vouloir entraîner un nouvel algorithme pour les reconnaître aussi, bien, si on n'a pas besoin d'en faire 2000, peut-être que les gens seront contents de savoir que seulement avec 500, par exemple, on peut s'en tirer. Mais oui, c'est beaucoup. Et ça, c'est parce que la façon dont les réseaux neuronaux apprennent, c'est en ayant beaucoup, beaucoup d'exemples. Comme humain, on est vraiment très bon pour distinguer un son qui est intéressant d'un bruit de fond qu'on veut ignorer. L'algorithme, il n'y a pas ce genre de discernement-là, parce qu'il part un petit peu de zéro, si on veut. Donc, ce que je veux faire, c'est lui montrer plusieurs exemples du chant pour qu'il apprenne, OK, ces parties-là sont importantes parce que je les vois sur chaque photo. Puis tout ce qu'on entend d'autre, c'est-à-dire des bruits de vent, des bruits de vagues, toutes sortes de bruits qui se passent dans la nature, qu'il apprenne que ça, c'est pas sur toutes les photos. si on veut l'ignorer.
Oui, c'est qu'en fait, d'une certaine façon, nous, quand on apprend à parler, on a quand même une idée claire que le son que la personne, que nos parents émettent, finalement, c'est les sons qui sont importants, puis c'est pas ce qu'il y a autour, alors que l'algorithme part avec aucune préconception du monde sonore qui l'entoure. Donc, l'image sonore qui est complète, qui comprend tous les bruits de fond, pour lui, il doit apprendre même à distinguer ça.
Oui. Okay. Donc, c'est pour ça qu'il y a besoin d'en voir beaucoup, beaucoup pour apprendre à faire cette distinction-là.
Puis justement, comme on parle d'apprentissage, alors comment est-ce que les bébés apprennent leur chant si chaque individu a un chant qui est différent? Comment ça se passe dans le développement?
Bien, les bébés, dans leur première année, ils entendent leur père, ils entendent leur voisin, puis ils vont copier ce qu'ils ont entendu autour d'eux. C'est un petit peu pour ça qu'on disait tout à l'heure qu'ils se créent des espèces de micro-dialectes. Comme le bébé entend ce qui passe autour de lui et qu'il va revenir habiter dans le même endroit, c'est sûr qu'il va comme copier ce qu'il a entendu, donc le genre d'accent, les particularités micro-régionales, si on veut. Mais aussi, c'est un animal, c'est pas un robot qui va faire une image parfaite de ce qu'il a entendu. Donc, un peu nous, comme on peut dire, ah oui, il sonne un petit peu comme son père, mais on répète pas. Tout le monde me dit que je sonne exactement comme ma mère.
Ah oui, bon, ben là, mais on voudrait pas des fois, mais ça nous arrive quand même à notre insu.
Mais on fait pas une réplique exacte. Oui. Donc, c'est comme ça qu'on peut voir que un jeune, il réplique ce qu'il a entendu autour de lui, mais il y a toujours quelque chose, un petit quelque chose de particulier sur une note ou deux ou juste dans l'agencement qui fait que c'est vraiment unique. Et puis, je peux vous faire entendre en fait un jeune qui est en train d'apprendre. Donc, il a écouté pendant toute l'année où il est sorti de son œuf. Il a écouté et là, cette année, il vient pour se reproduire puis il commence à pratiquer son chant.
Ah oui, OK. Allons, écoutons ça. Fait qu'on commence par, qu'est-ce qu'on commence par entendre en premier?
Donc, on commence par entendre ce qu'il fait, ce qu'on a enregistré de lui au début de la saison. Donc, il était déjà bagué, on savait que c'était lui. Puis, c'est ça qu'il nous faisait. Encore une fois, c'est lui.
Okay.
Donc, ça grince un petit peu.
Donc, ouais, on dirait que le chant est comme plus long que...
Il est plus long parce qu'il fait un petit peu n'importe quoi. Il se répète, il grince, il répète des choses qui n'ont pas trop rapport. Et puis finalement, quelques semaines plus tard, on a réenregistré le même oiseau. Et puis ça a donné ce chant-là qui est très classique.
Ah! C'est vrai que là, tout d'un coup, ça c'est comme... C'est plus synthétique. Il a réussi à trouver un chant plus clair.
Oui, il a trouvé sa voix finalement. Fini par trouver son économie de moyens, puis il a trouvé sa voix comme artiste, disons, et sa signature.
Ah, bon, écoute. Ben, écoute, sur ce jeune oiseau qui s'est accompli comme artiste aviaire, je te remercie beaucoup, Camille, pour cette entrevue. En tout cas, c'était vraiment intéressant d'entendre tout ça, puis j'espère que tout le monde maintenant va porter attention à chaque individu de Bruant des Prés qui vit autour de lui.
Merci beaucoup.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le numéro de printemps de la revue Québécoiseau devrait normalement être déjà arrivé chez vous. Il est trop tard pour s'inscrire et le recevoir, mais il est toujours disponible en kiosque. Vous pouvez l'acheter au dépanneur au coin de chez vous. Au menu, un numéro positif qui va porter sur deux espèces qui ont vu leur population rebondir après des périodes difficiles, le merle bleu de l'Est et l'épervier de Cooper. Vous y trouverez aussi un photoreportage qui traite de la santé des goélands de la région de Montréal, un sujet qu'on a d'ailleurs déjà abordé dans la balado. On s'en voudrait de ne pas souhaiter d'ailleurs la bienvenue à Marie-Hélène Haché, de qui c'est la toute première revue en tant que rédactrice en chef. Marie-Hélène est une habituée de la balado-diffusion, elle est déjà venue à quelques reprises et elle reprendra les rênes de la revue de Michel Préville qui a occupé ce poste pendant 18 ans. Évidemment, on va en profiter aussi pour remercier Michel, qui m'a aussi souvent aiguillé vers des sujets pour la balado-diffusion, qui est en communication quand même souvent avec moi, et qui m'a prodigué de précieux conseils. On le remercie donc pour ses 18 belles années à la tête de la revue Québécoiseau. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon début de printemps et à la prochaine!